20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 8 août 1974. Le président Nixon démissionne, accusé par le scandale du Watergate aux États-Unis. Cela fait plus de 3 ans que le républicain Richard Nixon est à la tête de la première puissance mondiale, les États-Unis. Embourbés dans une guerre du Vietnam qui n'en finit pas, les Américains vont voter d'ici quelques mois et Nixon compte bien rester à la Maison-Blanche. À Washington, siège du Parti démocrate, la campagne bat son plein. Tout est mis en place pour faire gagner le candidat du parti, George McGovern. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que la campagne qui est sur toutes les lèvres, car la nuit dernière, 5 hommes ont été arrêtés alors qu'ils s'étaient introduits dans les locaux du Parti démocrate pour y poser des micros et prendre des photos, des barbouzes en quelque sorte. En pleine campagne, ça paraît louche. Surtout quand on s'aperçoit que l'un d'eux est membre du comité pour la réélection de Richard Nixon. Mais quelques jours plus tard, le président prend la parole et déclare « La Maison-Blanche n'a aucune part dans cet incident précis ». En coulisses, on s'active pour essayer d'étouffer l'affaire et ça marche. Les semaines passent et rien ne se passe. L'affaire des micros est oubliée ou presque. Campagne oblige, on passe à autre chose. Pourtant, 2 journalistes du Washington Post ont flairé le scandale. Ils s'appellent Bob Woodward et Carl Bernstein et ils décident d'enquêter et réalisent rapidement que tous les indices mènent aux plus hautes sphères du pouvoir. Pendant ce temps, le président Nixon est réélu au mois de novembre, haut la main même, avec plus de 60% des votes, une victoire écrasante et le voilà qui rempile pour un second mandat. Mais Woodward et Bernstein s'obstinent et plus ils enquêtent, plus ils se rapprochent. De son côté, la justice, elle aussi, fait son travail. Et dans l'entourage du président, les têtes tombent les unes après les autres. Très vite, il n'y a plus aucun fusible pour protéger Richard Nixon. 2 commissions d'enquête en révélation journalistique, la machine s'emballe et le président comprend que se trame à son encontre une procédure d'impeachment, c'est-à-dire une procédure de destitution. Pour Nixon, impensable de devenir le premier président destitué de l'histoire des États-Unis. Une seule solution, démissionner. Après avoir longtemps réfléchi à tous les stratagèmes possibles, l'inévitable se produit. Le 8 août 1974, Richard Nixon s'adresse aux Américains.
Par conséquent, je démissionnerai de la présidence avec effet immédiat demain à midi. Le vice-président Ford prêtera serment en tant que président à la même heure dans ce bureau.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Jour J qui nous permet de revenir sur des événements qui ont marqué l'actualité, qui nous éclairent sur le monde d'aujourd'hui. Jour J qui nous permet de nous souvenir ou d'apprendre. Car les plus jeunes d'entre nous ignorent peut-être, même s'ils en ont déjà entendu parler, ce qu'est le Watergate. Le Watergate, eh bien, c'est l'un des plus gros scandales politiques des États-Unis qui a contraint le président Richard Nixon à la démission. En fait, c'est un feuilleton d'espionnage plus proche des pieds nickelés que de James Bond et on va tout vous expliquer dans ce numéro passionnant de Jour J avec Dominique Simonet. Dominique Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et écrivain et vous êtes l'auteur avec Nicole Bacharan du livre « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » aux éditions Perrin. Et bien évidemment, la démission de Richard Nixon en fait partie. En quoi cette démission et l'affaire du Watergate dont on va parler ce soir sont-ils des événements majeurs de l'histoire américaine ?
Ben c'est une image d'abord. Tout le monde se souvient, même dans les livres d'histoire maintenant, on voit ce président qui est sur la pelouse de la Maison Blanche, qui se dirige vers son hélicoptère et qui fait quelques pas, qui fait le V de la victoire avec ses bras. En fait, c'est un président déchu, c'est un président qui s'en va. C'est un président qui a été souillé par un certain nombre de scandales et c'est pour la première fois dans l'histoire américaine, un président démissionne. Et donc, c'est effectivement un événement très très important pour la démocratie américaine.
Alors, pour la première et la dernière fois d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a jamais revu ça.
Non, on n'a jamais revu ça.
C'est un cas
absolument
unique.
C'est le seul
dont on va parler ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter la journée de Richard Nixon le 9 août 1974? Dans un instant, on écoutera d'ailleurs son discours historique, hein, dans lequel il annonce sa démission.
En fait, c'est plutôt la nuit d'ailleurs qui a précédé, parce que ce président a été secoué, il a essayé de se débattre dans le mensonge, dans le déni, il est couvert d'un scandale qui l'emporte, et dans les dernières heures, il perd un peu pied quand même. C'est-à-dire qu'il va passer les quelques jours précédents, pratiquement en pleurs, au bord de craquer, avec des insomnies. Il boit beaucoup, s'il faut le dire. Il y a notamment une nuit qu'il passe avec son secrétaire d'État, Henry Kissinger, en buvant du whisky, et totalement désespéré. Il comprend pas bien ce qui lui arrive, en fait. Il comprend pas bien pourquoi il est obligé de partir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il démissionne pour éviter une destitution du Congrès qui est inévitable, et qui donc il faut qu'il parte avant pour ne pas avoir cette humiliation suprême. Donc le matin, après une nuit d'insomnie, ce 9 août 1974, il va faire un discours. Déjà, il va réunir sa famille, ses conseillers, ses ministres, les employés de la Maison Blanche, les gens des cuisines. Et il fait un discours très très émouvant, très très étrange. Je me suis pas enrichi. Mon père était un humble fermier. On est une famille pauvre, d'une certaine manière, pour dire mais qu'est-ce qu'on me reproche, qu'est-ce qui m'arrive, et avec une fin de discours, là c'est pour ses proches, hein, c'est pour les gens de la Maison Blanche, assez pathétique, en disant regardons vers l'avenir, presque moraliste. Et donc c'est un personnage très étrange quand même qui montre là une espèce d'incompréhension, presque de forme d'humanité au moment où il est abattu, et qui donc va partir, prend cet hélicoptère et va retourner chez lui en Californie, de la manière la plus piteuse qui soit. C'est la première fois, on l'a dit, qu'un président est obligé de partir et démissionne de toute l'histoire des États-Unis.
Alors, ce que je vous propose, avant de revenir sur les raisons qui ont contraint Richard Nixon à la démission, c'est de revenir sur son discours, un discours historique. Donc, je rappelle, vous le disiez, que c'est la première et la dernière fois qu'un président des États-Unis démissionne. Lors de ce discours, Richard Nixon évoque tout d'abord la fragilité sur laquelle repose le maintien de ses fonctions. Écoutez-le.
Tout au long de la longue et difficile période du Watergate, j'ai senti qu'il était de mon devoir de persévérer, de faire tous les efforts possibles pour achever le mandat pour lequel vous m'avez élu. Ces derniers jours, cependant, il est devenu évident pour moi que je n'ai plus une base politique suffisamment solide au Congrès pour justifier la poursuite de cet effort.
Alors, en fait, Dominique Simonet, dans ce qu'on vient d'entendre, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il démissionne avant d'être destitué.
Exactement. Il n'aura pas une majorité de sénateurs républicains pour le soutenir en dernier recours si une procédure d'impeachment va jusqu'à son terme. Et donc, pour éviter l'humiliation, il va partir.
Oui, mais il le dit quand même. Enfin, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui dit « Bon, allez, je te quitte avant que tu me quittes. » Non, mais on peut avoir un petit peu de, je sais pas, assez d'ego ou de panache pour ne pas le dire, en fait. Il en convient dans son discours.
Oui, il en convient, mais il peut pas faire autrement.
D'accord.
Il a évidemment le monde politique contre lui, même les républicains, vraiment à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
La presse, évidemment, qui a joué un rôle fondamental pour révéler le scandale du Watergate. Donc, il est absolument obligé. C'est ça ou un procès et la destitution. Donc, il vaut mieux partir dans ces cas-là.
Alors, on poursuit. Nixon évoque son retrait comme un acte de bravoure ou en tout cas de dévouement. Écoutez.
J'aurais préféré aller jusqu'au bout, quelle que soit l'agonie personnelle que cela aurait impliqué, et ma famille m'a exhorté à le faire. Mais l'intérêt de la nation doit toujours passer avant toute considération personnelle. Je n'ai jamais été un lâcheur. Quitter ses fonctions avant la fin de mon mandat est odieux à tous les instincts de mon corps. Mais en tant que président, je dois faire passer l'intérêt de l'Amérique en premier.
Dominique Simonet, il était vraiment habité par les États-Unis ?
C'est un personnage complexe parce que c'est un personnage à la fois très narcissique, un peu violent, aussi très colérique, qui a utilisé alors là des pires moyens. Il a organisé un système mafieux à la Maison Blanche pour pouvoir être assuré de gagner un deuxième mandat, par exemple, qui gouverne d'une manière extrêmement autocratique avec une petite clique de conseillers enfermés dans le bureau ovale. Donc c'est pas vraiment un démocrate dans l'âme, mais malgré tout, il respecte les institutions. D'ailleurs, en 1960, quand il était jeune, il s'était déjà présenté aux élections face à Kennedy, et il avait perdu de 100, 119 000 voix seulement, je crois. Oui. Et il avait concédé sa victoire. Donc, on n'est pas dans le cas de Donald Trump, par exemple.
Oui, c'est
Donc, il a un respect des institutions. Et c'est un personnage à la fois individualiste et malgré tout qui se plie aux institutions, mais qui a gouverné d'une manière une des pires qui soit là encore dans l'histoire américaine.
Voilà, on reviendra sur son mandat, évidemment. Au final, donc, on l'a compris, hein, ce 9 août 1974, Richard Nixon démissionne. On écoute à nouveau ce moment d'histoire.
Par conséquent, je démissionnerai de la présidence avec effet immédiat demain à midi. Le vice-président Ford prêtera serment en tant que président à la même heure dans ce bureau.
Là, c'est les boules quand même. Dominique.
Oui. On sent la déprime là déjà. On sent la personne.
C'est un aveu, quoi.
Oui, c'est un aveu. Il est vraiment déprimé. D'ailleurs, quand il va partir ce jour-là, il aura des semaines et même des mois d'une dépression grave. C'est quelqu'un qui visiblement comprend pas trop ce qu'il arrive, tout en ayant quand même été l'acteur de son propre drame.
Alors voilà, c'est ça. On va y revenir justement sur ce fameux drame. Comment en est-il arrivé là? C'est le scandale du Watergate, donc je vous le disais, qui va provoquer la chute du 37e président dans des États-Unis. On vous explique tout en détail dans un instant.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute attentive et toujours curieuse de Jour J, en compagnie ce soir du journaliste Dominique Simonet. Ce soir ensemble, on vous parle de Richard Nixon, le seul président des États-Unis à avoir démissionné. On est en 1974 et il était à la moitié de son second mandat. Alors Dominique Simonet, vous nous avez permis il y a un instant de découvrir mieux la personnalité de Richard Nixon. On va revenir sur les débuts, si vous le voulez bien, et puis sur la façon dont il a géré sa politique. Déjà, qui était-il ?
Alors c'était un jeune homme qui avait très envie de faire de la politique dès le départ. Oui. Il s'est présenté en Californie. Il a participé. Alors c'est un anticommuniste aussi. Hein, il a participé aux commissions. Il faisait un peu la chasse aux sorcières dans les années 50. On l'appelait Tricky Dick.
Oui, tu veux dire le roublard.
Voilà, exactement, le roublard, le rusé. Donc c'était déjà un peu quelqu'un d'un peu... il voulait réussir, quoi. Son idée, c'est tout est bon pour réussir en politique. Tous les moyens, et même les plus... les moins acceptables. Et donc il a été élu sénateur. Il a échoué, on le disait tout à l'heure, face à Kennedy en 1960. Et en 1968, après deux mandats de Lyndon Johnson, Johnson renonce à se présenter parce que son premier mandat c'était après l'assassinat de Kennedy, donc il n'en a fait qu'une partie. Lyndon Johnson pouvait se représenter, mais il renonce. Là, Richard Nixon voit sa chance. C'est une période difficile, 1968. Hein. Il y a le Vietnam, il y a l'assassinat de Martin Luther King, il y a l'assassinat de Bob Kennedy. Ouais. Et là, il est élu comme le candidat républicain assez dur. Son slogan, c'est la loi et l'ordre. Il a 55 ans et il va faire un premier mandat qui sera assez difficile parce qu'il y a toujours ce Vietnam qui est là comme une plaie à la fois en Asie mais et aussi pour les jeunes Américains. Il va avoir un gros problème en 71. C'est ce qu'on a appelé les dossiers du Pentagone, les Pentagon Papers, où un analyste militaire, on parlait pas encore à l'époque de lanceur d'alerte, qui s'appelle Daniel Ellsberg, révèle que en fait la Maison Blanche ment. Elle dit que les Américains peuvent gagner la guerre du Vietnam et non, ils ont caché la vérité. Il y a un bras de fer avec le New York Times à l'époque. l'époque, et le gouvernement, c'est d'une certaine manière, c'est le secret de la défense contre le premier amendement qui est la liberté d'expression, et la Cour suprême autorise la publication des dossiers. Donc là, Nixon est foudrage parce qu'il veut absolument détruire ce personnage qui a révélé des secrets défense selon lui. Il lance déjà des barbouzes pour essayer de voler son dossier médical, c'est son psychiatre pour essayer de le salir.
Il force, et la Maison Blanche est en train déjà de... Pardon, mais il fait forcer le bureau du psychiatre. Déjà.
Absolument.
Enfin, je veux dire, c'est
absolument.
Un truc de dingue.
Et oui, et donc on voit déjà que la Maison Blanche de Nixon, c'est une petite bande de complices. Il a quelques conseillers, hein, notamment Bob Adelman et John Ehrlichman, qu'on appelle la garde prussienne, qui commence à faire des opérations un peu bizarres pour clandestines avec de l'argent, on ne sait pas bien d'où elle vient, pour faire de la politique d'une manière assez sale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Nixon veut absolument son deuxième mandat, qui va arriver en novembre 72, les élections. Il est totalement paranoïaque, il est obsédé par ça, il s'isole avec ses conseillers, et il commence à se réfugier dans une espèce de petit monarque qui craint tout, et qui donc ne peut réagir qu'en lançant des opérations clandestines avec des coups de force. Et pourtant, curieusement, au même moment, il a plutôt un bon bilan pour être élu. Il a notamment en politique étrangère, on se souvient de ces images en 72, avec le président Mao, il va quand même, les États-Unis serrent la main à la Chine, les accords SALT en mai 72 avec l'URSS, les États-Unis serrent la main à l'Union soviétique. Donc, il a plutôt un bon bilan, et d'ailleurs, il va être, il sera réélu assez
à 61% assez des voix.
Le problème, c'est que ça ne lui suffit pas, ce monsieur, et il pense que il faut vraiment donner un coup de pouce pour sa réélection.
Alors, Dominique Simonet, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est quoi l'affaire du Watergate?
Alors, on est en pleine campagne électorale. On est le 17 juin 1972. L'élection va avoir lieu quelques semaines plus tard, en novembre. Et l'immeuble du Watergate, qui est le siège du Parti démocrate, c'est-à-dire les rivaux de Nixon pour sa réélection, est cambriolé une nuit. Et on apprend très très vite que ces cambrioleurs, en fait, sont pas vraiment des cambrioleurs. Ce sont une équipe qui a posé des micros pour faire des écoutes illégales.
Alors justement, ces fameux cambrioleurs du siège du Parti démocrate, ils vont finir menottes au poignet. Là, on avance un petit peu dans l'histoire. On va écouter tout de suite Jean-Pierre Farkas qui nous en dit plus à leur sujet sur RTL en avril 73. On se retrouve tout de suite.
James McCord, Frank Sturgis, Bernard Barker, Eugenio Martinez, Virgilio Gonzalez, un seul nom pour vous à retenir, McCord. Le seul qui ne sera pas condamné parce qu'il est le seul à avoir parlé. Les bricoleurs de Watergate ont aussi en commun d'être des anciens de la CIA qui ont fait leur début dans la profession au temps de Kennedy dans la malheureuse équipée de la baie des cochons et qui depuis sont au mieux avec l'état-major du Parti républicain en Floride.
Dominique Simonet, la CIA quand même.
Ben oui.
C'est là que ça coince, hein.
Oui, effectivement, là, il y a quelque chose d'assez inquiétant parce que on a donc posé des micros au siège du Parti démocrate. Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont à voir avec la CIA et le FBI. La question, c'est quel est le rapport avec Richard Nixon et avec son équipe de campagne.
Alors, il y a déjà ça, mais il y a encore plus gros encore. Écoutez.
Sont immédiatement impliqués leurs deux chefs, Gordon Liddy et Howard Hunt. Là, le gibier est un peu plus gros. Liddy et Hunt ont leurs entrées à la Maison Blanche et au comité pour la réélection du président, leurs entrées, mais aussi leur bureau et dans la place, quelques petites relations d'affaires. Tout de suite, à la Maison Blanche et chez les Républicains, on se voile la face, on n'a rien à voir avec cette entreprise individuelle et ses pratiques scandaleuses.
Ça commence à craindre, hein, en réalité. Dominique.
Eh oui, ça commence à craindre parce que là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Il y a une campagne électorale, il y a un président qui veut un deuxième mandat, et puis au même moment, il y a une pause de micro avec orchestrée par des gens qui en fait ont des liens avec le comité de la réélection de Richard Nixon et peut-être à la Maison Blanche. Donc, est-ce que la question est simple? Est-ce que le président est le commanditaire de cette opération?
Alors Nixon, il va être réélu en tout cas en novembre 72 avec 61% des suffrages contre George McGovern. Alors qu'il se pense à l'abri à la Maison Blanche, il y a deux journalistes en fait qui vont flairer le scandale. Dominique Simonet, on va expliquer. expliquer qui ils sont dans un instant à nos auditeurs. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Derrière le scandale du Watergate qui a mis à terre le président Richard Nixon en 1974, il y a deux journalistes acharnés qui s'appellent Bob Woodward et Carl Bernstein, interprétés au cinéma 4 ans plus tard par Robert Redford et Dustin Hoffman dans le film Les Hommes du Président. Dominique Simonet, ils ont flairé tous les deux le scandale. Qui sont-ils ?
Oui, alors ce sont deux journalistes qu'on appelle maintenant des journalistes d'investigation, c'est-à-dire ils essayent de faire une enquête la plus fournie possible pour essayer de comprendre et notamment de répondre à cette question qu'on a posée tout à l'heure, à savoir est-ce que la Maison Blanche est impliquée dans cette affaire, est-ce que Richard Nixon sait quelque chose, voire pire, est-ce qu'il serait à l'origine de cette opération d'espionnage. Deux journalistes, c'est vrai qu'ils sont très popularisés par Dustin Hoffman et Robert Redford. On a tous vu ce film Les Hommes du Président. On va suivre différents films, notamment le profil de ce qu'on appelle les plombiers, c'est-à-dire ces gens qui sont venus faire les écoutes. Ils ont un informateur.
Gorge profonde,
exactement. Longtemps, on ne connaîtra pas son identité. Mm. On l'a su, on peut le dire, à ce stade, on l'a su en 2005. En fait, le fameux gorge profonde, cet informateur qui donne des rendez-vous dans des parkings aux deux journalistes pour leur donner des pistes, sans vraiment leur dire les choses, mais en leur donnant des pistes, c'est un monsieur qui s'appelle Mark Feld et qui est le sous-directeur du FBI. Hey. Alors, pourquoi a-t-il fait ça? Sans doute par rancœur, parce qu'il n'a pas, il n'avait pas été nommé patron du FBI par Nixon, et donc il était sans doute très aigri, et donc il a participé d'une certaine manière à l'enquête des deux journalistes qui progressent très vite. Hein. Le Washington Post met le maximum d'outils et de confiance dans ces deux journalistes, et il rencontre des témoins qui confirment qu'il y a, il y a bien des fonds secrets un peu bizarres qui ont été donnés. Les plombiers, en l'occurrence, ces cinq personnes nient devant les commissions d'enquête, mais on va apprendre assez vite qu'en fait ils ont été payés pour mentir. Donc de plus en plus la pelote se dévide et les deux journalistes se rendent compte qu'ils ont affaire à une affaire d'État d'une certaine manière.
Donc ils s'approchent progressivement de la Maison Blanche. Je voudrais qu'on écoute maintenant une archive des années, des décennies plus tard. Nous sommes en 2017, lors d'une conférence TEDx, il y a Bob Woodward qui est donc l'un des deux journalistes qui analyse avec le recul les motivations de Richard Nixon dans l'affaire du Watergate. Écoutez.
And he said the following.
Et à la fin de son allocution télévisuelle, Nixon a dit ce qui suit. N'oubliez jamais, les autres peuvent vous haïr, mais ceux qui vous haïssent ne gagnent que si vous les haïssez en retour. Et ensuite, vous vous détruisez. Pensez maintenant à la sagesse dans son message. La haine était le poison. La haine était ce qui les poussait, ce qui les animait, lui et sa présidence. Et au moment où il a dû quitter son poste, il a compris comment le poison et la haine l'avaient détruit et avaient mis le pays à cran.
Dominique Simonet, ce serait donc la haine qui aurait fait agir Nixon. La haine contre qui ?
La haine d'abord contre les journalistes. Depuis l'affaire des papiers du Pentagone, il déteste les journalistes. Il pense que c'est la ligne d'humanité, que ces gens-là sont toujours en train de faire des histoires et d'entraver la bonne marche de son gouvernement. Donc il déteste ça. Il déteste aussi les démocrates. C'est quelqu'un de très 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 réactionnaire et il veut absolument avoir les pouvoirs pour appliquer son programme de toujours, c'est-à-dire la loi et l'ordre. Enfin l'ordre peut-être, mais la loi. Elle est assez bafouée dans cette histoire.
Ah bah, mais alors attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il sort de son premier mandat, il bénéficie d'une image qui est plutôt positive. En plus, il va être réélu, on l'apprendra plus tard, avec 61% des voix. Qu'est-ce qui lui prend d'envoyer des pieds nickelés, installer des micros au siège du Parti démocrate ?
Parce qu'il est paranoïaque. C'est quelqu'un qui vraiment a peur de tout, qui est pas très très bien informé non plus. Il est toujours avec sa petite équipe de conseillers. Puis vous savez, il y a une espèce d'engrenage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a commencé à organiser des équipes clandestines pour faire de l'espionnage auprès de ses adversaires démocrates, il y a quelque chose qui on ne peut plus revenir en arrière d'une certaine manière, parce que et c'est bien ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont agi, eux, vont essayer de sortir de là. Ils sont pris au piège.
Ouais.
Donc, est-ce qu'ils vont accuser la Maison Blanche? Et Richard Nixon, il en a très très peur. Donc, il va être obligé, d'une certaine manière, d'aller encore plus avant pour essayer de faire taire les témoins, des soudoyés.
Alors, l'étau se resserre autour de la Maison Blanche. Les premières têtes autour de Nixon vont tomber et fragiliser la position du président. On voit ça dans un instant avec vous sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit et qui vous rappelle ou qui vous fait découvrir l'affaire du Watergate. Elle a commencé, je vous le rappelle, en juin 1972, soit à peu près 2 ans avant la démission du président Richard Nixon. 2 ans pendant lesquels il y a des journalistes, Woodward et Bernstein, qui vont mener l'enquête. La justice aussi, on ne l'a pas dit, hein, Dominique Simonet, mais elle progresse malgré de fortes pressions politiques. La Maison Blanche commence à trembler et les premiers fusibles sautent. Écoutez, nous sommes sur la première chaîne de l'ORTF le 28 avril 1973.
Jour après jour, presque d'heure en heure, de nouvelles révélations mettent en cause des personnalités de premier plan, telles que le directeur intérimaire du FBI ou l'adjoint au secrétaire au commerce. D'ores et déjà, John Mitchell, ancien ministre de la Justice qui dirigeait la campagne électorale du président étant de ses amis, a dû donner sa démission, tout comme Maurice Stans, ancien secrétaire au commerce. Mais la liste est loin d'être close.
Dominique Simonet, plus le temps passe, plus on se rapproche du bureau ovale. Et plus les têtes tombent, plus Nixon est fragilisé. Car une fois qu'on aura fait tomber tous les remparts autour de lui, bah, il sera tout nu, hein, Richard Nixon, il pourra plus nier.
Absolument, d'autant plus que les personnes qui ont travaillé pour lui, les fameux plombiers, les gens qui sont impliqués à la Maison Blanche et ses conseillers, ont de plus en plus peur. Et la plupart d'entre eux craquent.
Tout le monde ne tient pas sa langue, en fait.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on les menace aussi. Cette même année-là, James McCord, qui est un des plombiers, de l'équipe du cambriolage, avoue qu'il a menti, que la Maison Blanche est impliquée, parce que les peines qu'on lui rend de temps et qu'on lui rend possible sont énormes. Un autre conseiller, quelques temps plus tard, va aussi craquer, et en échange de son immunité, il va tout révéler et il va accuser Nixon, notamment d'avoir ouvert des fonds secrets pour ses opérations illégales.
Ça, c'est John Dean. Et puis, il y a eu le conseiller aussi, Alexander Butterfield.
Alors là, c'est une histoire extraordinaire, Alexander Butterfield, parce que d'un seul coup, ce conseiller dit « Eh ben, je vais vous donner des transcriptions de conversations à la Maison Blanche ». Les enquêteurs se rendent compte que ce sont des transcriptions de conversations enregistrées. Donc on lui demande « Mais il y a des micros à la Maison Blanche ?» Et il lâche tout. Oui, il y a des micros à la Maison Blanche. Alors il faut dire qu'il y a des micros à la Maison Blanche depuis Franklin Roosevelt. C'est lui qui avait fait enregistrer les conversations dans son bureau pour pouvoir avoir un transcript à l'origine. C'était l'idée très 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 précise des conversations. Mais les autres présidents ont continué cette pratique et l'ont améliorée. Il y avait des micros sous Kennedy et quand Nixon est arrivé, il a encore amélioré le système. Il y a 5 micros dans le tiroir de son bureau. Il y en a 2 dans les appliques lumineuses. Il y en a 2 sous la table du cabinet room, qui est la salle où se réunissent les secrétaires d'État, les ministres. Et ça tourne en permanence. Ça s'active avec la voix. Et donc, Nixon, à chaque fois qu'il se réunit avec ses conseillers dans le bureau ovale, c'est enregistré. Et le président l'oublie. Il l'a oublié que ça tournait en permanence. Et quand Alexander Butterfield le révèle publiquement, Nixon est à l'hôpital. Et c'est trop tard pour aller détruire les enregistrements qui sont emmagasinés en dessous dans les sous-sols de la Maison Blanche d'ailleurs. Et donc là, l'affaire prend une autre dimension. Évidemment, les enquêteurs lui demandent de fournir les enregistrements. Et dans ces enregistrements, il y a des séances avec ses conseillers où explicitement, il dit il faut que le FBI arrête son enquête, il faut faire pression sur un tel, et même, je vais vous trouver, il faut qu'on ait de l'argent, lui demande un conseiller, et Nixon répond, je vais vous trouver $1 million, oui, ça, on peut le trouver. Donc, il y a la preuve évidente sur ces bandes de ces malversations. Il refuse de fournir, il invoque le privilège de l'exécutif, Il demande le renvoi du procureur, on l'a entendu, le ministre de la Justice démissionne, son adjoint refuse aussi, il est licencié, le procureur est révoqué. Donc les têtes tombent sans arrêt, l'affaire prend une importance de plus en plus grande, et Nixon, lui, devient de plus en plus presque fou, enfin prostré, il boit énormément, il réécoute seul les bandes pour essayer de voir comment il pourrait peut-être s'expliquer. C'est une période extrêmement sombre de la Maison Blanche. Kissinger d'ailleurs raconté qu'à un moment le Premier ministre britannique a appelé à la Maison Blanche et Kissinger a pris l'appel à la place du président en disant à ses conseillers non, je prends l'appel parce que le président est bourré. Donc vous voyez à quel point de décrépitude d'une certaine manière il est arrivé. Et puis il finit par en fournir un peu, mais avec des morceaux coupés. Et ça plaît pas du tout aux enquêteurs.
Il manquait 18 minutes d'enregistrement.
Oui, absolument. Il manque 18 minutes d'enregistrement. Les enquêteurs demandent. Alors là, il y a plusieurs enquêtes. Il y a la presse qui continue sans arrêt tous les jours. Il y a des révélations. Il y a la justice pour le cambriolage. Il y a un procureur spécial. Il y a la commission d'enquête du Sénat. Il y a énormément de choses qui convergent. Et l'affaire va jusqu'à la Cour suprême qui, en juillet 1974, exige que les morceaux manquants soient communiqués. Et donc, une procédure en plus de destitution, là, commence à être engagée par le Congrès.
Et c'est ainsi.
Donc, à ce moment-là, le président est totalement acculé, il ne peut plus rien faire. Et il va finir par donner ces bandes qui sont absolument hallucinantes. On peut les écouter dans les archives présidentielles. On entend des conversations incroyables où vraiment c'est un chef mafieux qui parle avec une grande grossièreté d'ailleurs et qui donne des ordres comme si c'était le parrain. Et c'est un parrain à ce moment-là. Ça a été un parrain qui a fourni de l'argent, qui a soudoyé des témoins et qui a organisé des méthodes de qui sont évidemment pas celles d'une démocratie.
Voilà, un parrain en tout cas qui a tremblé, un parrain qui a préféré démissionner le 9 août 1974 plutôt que d'être destitué. Justement, l'impeachment aux États-Unis, on vous explique tout dans un instant et vous allez voir que Nixon n'est pas le seul à avoir été concerné. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Vous l'avez compris, ce soir, le président Richard Nixon a préféré démissionner plutôt que d'affronter publiquement une procédure de destitution, ce que l'on appelle impeachment. Vous en avez forcément entendu parler, car deux autres présidents dans l'ère moderne ont été concernés par cette mesure. Bill Clinton, après l'affaire Monica Lewinsky, je vous invite d'ailleurs à écouter le replay, c'est sur rtl.fr, puisqu'on en avait consacré une émission de jour J, cette affaire. Et puis Donald Trump, alors évidemment à deux reprises, parce qu'avec Donald, c'est toujours plus fort, toujours plus haut. En tout cas, dont la seconde était pour incitation à l'insurrection après l'assaut du Capitole par ses partisans. Aucune n'a abouti. Mais alors, quel caillou dans la chaussure d'un président, Dominique Simonet, l'impeachment ?
Ah oui, c'est vraiment là, c'est la catastrophe suprême, si j'ose dire. Ça se passe en deux temps. Il y a la Chambre des représentants qui vote les chefs d'inculpation, et puis elle transmet si le vote est en faveur de l'impeachment, elle transmet au Sénat, qui lui se transforme en tribunal. Et il faut deux tiers des voix. Deux tiers des voix, il faut les avoir quand même. Deux tiers des voix pour prononcer la destitution. Et dans l'histoire, vous l'avez rappelé, il y a eu très très peu de présidents concernés. Il y a Andrew Johnson en 1868 qui n'a pas été destitué. Il y a Clinton, la Chambre a voté des chefs d'inculpation qui étaient pour parjure et pour mensonge devant sous serment. Mais bon, cela c'était un piège, c'était l'affaire Lewinsky. Mais le Sénat n'a pas destitué et il y a eu Trump deux fois. Alors là, vous l'avez dit, c'est unique. Trump ne fait pas comme les autres. En 2017 pour une collusion avec puissance étrangère pendant la campagne et en 2021 pour l'insurrection du Capitole.
D'accord. Donc en fait, en deux mots, ce qu'on appelle la destitution, c'est être viré, quoi. Et un président viré de la plus grande puissance au monde, c'est quand même très très compliqué, quoi.
C'est un désaveu. Ah, c'est un des contre-pouvoirs en tout cas du pouvoir de la démocratie américaine, c'est d'avoir un recours quand même contre le président quand le président se comporte mal ou voire même quand il tourne à l'autocrate.
Donc une forme de protection, dont on a heureusement usé contre Donald Trump. On va revenir à Nixon, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on garde de sa politique et de son passage de 6 ans à la Maison Blanche ?
c'est ambigu, comme le personnage. La politique étrangère a été plutôt bonne. Hein. Il a quand même essayé de régler un certain nombre de dossiers extrêmement brûlants à son époque. C'était l'URSS, le Vietnam. Enfin, tout ça a été compliqué sur le plan intérieur. Il s'est comporté de manière extrêmement violente avec des méthodes contre les Black Panthers, contre les militants, écoutant les journalistes. Bon, c'est un peu dans l'esprit du Watergate d'une certaine manière. Et c'est quelqu'un qui sera gracié par le président Ford.
Mais oui, rapidement d'ailleurs, hein.
Oui, en septembre après de la même année.
Bah oui, c'est ça, c'est un mois après.
Oui, mais pour apaiser les choses, apaiser les choses, parce que c'est vrai que c'est pas la peine de remuer encore, c'est dit le président Ford, c'est pas la peine de remuer tout ça. Et Nixon, il va retourner dans sa Californie, il va en grande dépression, ça va aller mal pour lui. Et puis
avec ses bouteilles de whisky.
Il se remettra de ça finalement. Il jouera un rôle, il écrira des livres, il jouera un rôle de conseiller. Et quand il mourra en avril 94, il y aura quand même 50 000 personne à ses funérailles, et 4 présidents qui y assisteront.
Oui.
Et moi, j'aime bien cette phrase qui résume un peu cette ambiguïté d'un auteur, d'un journaliste, qui Nixon est un président à la fois si brillant et si moralement corrompu.
Voilà, oui.
C'est un personnage complexe, à double facette, qui n'a pas vraiment quand même fait briller la démocratie américaine.
Merci beaucoup Dominique Simonet d'avoir accepté mon invitation ce soir. C'était passionnant, vous nous avez éclairé sur l'affaire du Watergate et la personnalité de Richard Nixon, donc 37e président des États-Unis et seul président à avoir démissionné. À bientôt Dominique Simonet.
À bientôt, merci.
Je rappelle votre livre passionnant, coécrit avec Nicole Bacharan, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, et on le retrouve aux éditions Perrin. À bientôt Dominique Simonet, merci.